Many of us have those stubborn pounds that seem impossible to lose, no matter how good we eat or how hard we work out. My solution is PlushCare. PlushCare is a leading telehealth provider with doctors who are there for you day and night to partner with you in your weight loss journey. They can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wegovy and Zepbound for those who qualify. Plus, they accept most insurance plans. To get started, visit plushcare.com/weightloss. That's plushcare.com/weightloss.
Bonjour à tous, je suis Martin Mosnier, journaliste à Eurosport et bienvenue dans le FC Stream Team. Malheureusement, j'ai deux mauvaises nouvelles pour vous tous. Un, vous allez être reconfinés et deux, vous n'allez pas être confinés avec Cyril Morin. Vous allez voir, vous allez passer 30 minutes avec lui et ça va vous donner envie de partager votre vie avec lui jusqu'au 1er décembre. Malheureusement, vous n'aurez que 30 minutes, alors profitez-en. Comment ça va, Cyril ?
Écoute, ça va, Martin. Je ne sais pas si on peut rêver d'un meilleur lancement, mais tout va bien, merci.
Et moi, je suis là pour te mettre en valeur, Cyril.
Avant c'est gentil.
Tout, c'est mon but dans la vie. Quand ma mère m'a mis au monde, elle m'a dit « Tu seras là pour mettre en valeur Cyril Morin ». Et donc, je suis ravi de partager cette émission avec toi. Pas de Maxime Dupuis aujourd'hui, vacances oblige. De toute façon, vacances ou non, Maxime, il s'en octroie quand il veut, puisque c'est lui le patron. Donc, Cyril nous a rejoint. Cyril, pour un programme de choix aujourd'hui, détaille-nous un petit peu le sommaire de cette émission.
Eh bien, semaine post-Ligue des Champions, semaine pré-Ligue des Champions, des matchs au week-end, donc on n'a que des gros clubs. On commencera évidemment par la situation du FC Barcelone après cette belle victoire face à la Juventus et notamment le rôle d'Antoine Griezmann, encore et toujours, qui fait débat au FC Barcelone. Est-ce que, finalement, le Barça n'a pas trouvé la solution avec Antoine Griezmann, ce sera notre premier sujet.
Deuxième sujet, on parlera de Thomas Tuchel qui s'est encore énervé en conférence de presse. C'était déjà le cas vendredi dernier. Finalement, c'est un peu le cas tous les trois jours dès qu'il passe devant la presse, Thomas Tuchel. On le sent à vif, on le sent très énervé. Et on va essayer de se replonger un petit peu dans les archives, retourner du côté de Dortmund et se rendre compte que ce n'est pas nouveau pour Thomas Tuchel. Donc voilà, ce sera le deuxième sujet de cette émission, Thomas Tuchel. Et on terminera avec un classement qu'on aime bien faire, Cyril.
Ouais, parce que vous le savez, le Ballon d'Or a été annulé pour l'année civile 2020. Il n'empêche que, en temps normal et en année normale, ça devrait être cette semaine que les votes auraient été clos. Donc, on a décidé, Martin, évidemment, de faire notre top 10 du Ballon d'Or, plus que le vainqueur hypothétique, qui n'est pas très compliqué à deviner, classer les 10 meilleurs joueurs de l'année civile 2020, c'était un petit peu plus compliqué et il y aura débat quoi qu'il en soit.
Écharpé avec Cyril, on s'entendait bien avant ce top 10. Maintenant, on ne peut plus se voir. Cyril, on démarre avec Antoine Griezmann. Et donc, ce match face à la Juve du FC Barcelone, Koeman a lui-même dit que c'était sans doute le meilleur match du FC Barcelone sous sa direction, ce qui est plutôt une bonne nouvelle. On rappelle que, pour Antoine Griezmann en tout cas, on rappelle qu'Antoine Griezmann jouait en pointe à la place de Luis Suarez, qui n'est plus là. Messi, lui, était en soutien du Français. Sur les ailes, on avait Pedri et Ousmane Dembélé. Ça s'est plutôt bien passé. Déjà, le FC Barcelone s'est imposé à Turin. Ce n'est pas rien. Turin est aussi un prétendant à la victoire finale en Ligue des Champions. Et surtout, on a l'impression que ça a fonctionné, Cyril. Et on a l'impression que cet axe, c'est de cet axe que viendra le salut aujourd'hui d'Antoine Griezmann au FC Barcelone.
Oui, Martin, ce n'est pas une énorme surprise. On ne cesse de le répéter. Antoine Griezmann est un joueur d'axe. Le voir utilisé comme ailier droit dans le 4-2-3-1 de Ronald Koeman depuis le début de saison était quand même très compliqué à imaginer. Il était complètement coupé des circuits de passe. Là, face à la Juve, il a livré sa meilleure prestation de la saison. Vous me direz, ce n'est pas très compliqué, mais il a touché 57 ballons. C'est le deuxième total, le plus élevé des joueurs du Barça, derrière évidemment Lionel Messi. Il y a deux grosses occasions, un poteau et une frappe qui a léché aussi le poteau sur une passe de Messi. Et là aussi, c'est un des gros points forts. Beaucoup de ballons échangés avec des cadres de l'équipe, donc Lionel Messi, 9. Donc on peut déjà mettre de côté l'espèce de dispute Messi-Griezmann qu'on avait pu imaginer ces dernières saisons. Jordi Alba, fondamental dans le fonctionnement offensif du Barça. Et le petit nouveau qui peut faire beaucoup de bien à Antoine Griezmann, c'est Miralem Pjanic qui, aussi dans ce 4-2-3-1-là, a donné une nouvelle dimension au milieu de terrain Blaugrana. Et forcément, quand ça va bien au milieu de terrain, ça va tout de suite beaucoup mieux en attaque, surtout quand c'est des vrais ailiers sur les côtés en la personne de Pedri et de Ousmane Dembélé, Martin.
Oui, on avait un jeu aéré et on a eu un Griezmann qui s'est baladé un petit peu de partout. Alors, C'est pas le poste idéal d'Antoine Griezmann. Ça, c'est une certitude. Mais je pense que c'est le moins mauvais dans ce FC Barcelone-là. D'abord parce qu'il n'y a pas d'attaquant de pointe dans ce FC Barcelone. C'est, voilà, il n'y en a pas. Koeman n'en a pas sous la main. Il n'a pas réussi à faire venir Memphis Depay. Luis Suarez est parti. Lautaro Martinez a été une option envisagée, mais beaucoup trop chère. Donc aujourd'hui, il n'y en a pas. Donc je pense que à la fois pour le FC Barcelone, c'est la meilleure solution parce que peut-être que celui qui se rapproche plus de cet attaquant de pointe, bah, c'est peut-être Antoine Griezmann. Et pour Antoine Griezmann aussi, on le sait, ce n'est pas un ailier de débordement. Ouais. Au niveau des dribbles, ce n'est pas quelqu'un qui va être dans l'élimination dans le 1 contre 1. Il n'a pas une vitesse folle, donc ce n'est pas non plus un ailier de débordement. Donc, il n'a pas les qualités, ces qualités-là. L'année dernière, il a passé beaucoup trop de temps, à mon goût, sur l'aile gauche. Là, il avait démarré sur l'aile droite. Ça ne marche ni d'un côté ni de l'autre. Donc, dans l'axe, c'est là où ça paraît le plus naturel pour lui. Associer Messi et Griezmann, il faut travailler cette complémentarité parce qu'elle ne saute pas aux yeux. On a vu des belles choses face à la Juventus. Ouais. Hein. Alors, il y a Coutinho qui sera le troisième larron, sans doute, dans cet axe-là. Mais si ces trois hommes, on va enlever Messi parce que Messi ne va rien partager du tout. Mais si Coutinho et Griezmann se partagent cet axe avec Messi, bah, ça sera peut-être la meilleure solution pour Griezmann. Ses qualités fonctionnent mieux et sont plus mises en valeur dans cette position-là. Après, moi, évidemment, je le préfère, je l'ai toujours dit, avec un gros attaquant de surface, en soutien d'un attaquant de surface, que ce soit Giroud, que ce soit tout ce qu'il avait du côté de l'Atlético Madrid. On pense notamment à Torres. C'était un moment Torres. Voilà, moi, je le préfère dans cette option-là, mais il n'y en a pas aujourd'hui. Donc, il va bien falloir faire avec. Moi, j'ai bien aimé le match de Griezmann. Ce n'était pas sensationnel encore. Et on sent surtout qu'il y a encore un déficit de confiance sur ces deux actions, sur les deux poteaux. Il y a une action aussi aux alentours de la 30e minute où il doit frapper tout de suite et il fait une petite feinte. Enfin, il se mélange un peu les pinceaux. Peut-être qu'en pleine possession de ses moyens, quand il sera au top de sa confiance, et il en est très, très loin, et ben cette place dans l'axe pourrait lui permettre, si ce n'est de jouer son meilleur football, en tout cas d'être utile au FC Barcelone, ce qui était loin d'être le cas ces derniers mois.
Oui, c'est Ronald Koeman, exactement la même analyse que toi, Martin, ce vendredi en conférence de presse. Il a dit qu'il lui manquait ce petit but pour refaire décoller Antoine Griezmann. Et effectivement, moi, je partage ça. Il y a un autre avantage, c'est que ça permet d'utiliser Lionel Messi un petit peu plus bas sur le terrain et donc à la fois à la création et souvent à la finition. Vous savez que Messi, il n'est jamais meilleur que quand il est lancé. Le mettre seul devant avec Coutinho qui tourne derrière lui, parfois, ça le coupe un petit peu des réseaux de passe, même si Messi, on ne le coupe jamais vraiment des réseaux, mais il n'empêche qu'il est un petit peu plus isolé.
Le réseau du Barça, c'est
le réseau du Barça, c'est Messi.
Sans Messi, il n'y a pas de 4G du Barça. Il n'y a pas de 5G. Le Barça, il est en edge. Il est en mode avion même sans Messi.
Donc, c'est peut-être un avantage sur lequel devrait jouer Antoine Griezmann. Après, moi, je pense quand même que le principal concurrent d'Antoine Griezmann avant le mercato d'hiver et possiblement l'arrivée de Memphis Depay, ça reste Coutinho. Oui. Il y aura plus de, enfin, il faut plus voir Griezmann sur un côté. Ça a crevé les yeux face à la Juventus Turin. Il y a assez d'ailiers comme ça au Bayern.
Ouais, puis voilà, aujourd'hui, il y en a 4.
Voilà, exactement.
Voilà, t'as Fati, t'as Trincao, t'as Pedri, t'as Ousmane Dembélé qui revient bien. Je veux dire, il n'y a pas la place pour Griezmann à un moment. Voilà, c'est 4
quand
là.
Les autres sont plus performants à ces postes-là et correspondent plus aux besoins. Voilà. Ouais. Donc, si le 4-2-3-1 continue d'être la règle de Ronald Koeman, il va falloir que Griezmann réussisse à passer devant Coutinho. Ce sera le principal objectif de sa saison. Et je suis d'accord avec toi, un petit but ne ferait pas de mal, à notre grisou national.
Mais même si, encore une fois, je pense qu'il faut faire le deuil du grand Griezmann. Il faut faire le deuil du Griezmann en équipe de France, faire le deuil du Griezmann de l'Euro 2016 quand il était à son prime. Il faut faire le deuil du Griezmann de l'Atlético Madrid parce que dans cette configuration-là et avec la construction de l'effectif catalan tel qu'il est aujourd'hui, on ne peut pas avoir le meilleur Griezmann parce qu'il n'y a pas les joueurs nécessaires à la mise en valeur de ces qualités-là. On doit en faire le deuil, mais ça ne veut pas dire qu'il ne peut pas être utile à Barcelone. Et c'est ce qu'a montré ce match en Ligue des Champions. On aurait pu en douter ces derniers temps. Ouais. Et donc, au moins, ça a ce mérite-là, ce match face à la Juve, qui était le match le plus compliqué, à la fois le match le plus compliqué et le match le plus abouti. Donc, c'est un vrai argument, ça aussi, pour Antoine Griezmann.
C'est vrai que faire partie du match référence du Barça cette saison, c'est quand même un peu mieux que d'être sur le banc à ce moment-là.
Et puis Coutinho a montré certaines limites aussi lors du Classico. Donc voilà, on n'est pas non plus sur un Coutinho gigantesque, le Coutinho de Liverpool. Donc on est sur deux joueurs en tout cas qui sont dans une crise de confiance, qui sont à la recherche de leur meilleur niveau. Voilà, je pense qu'il faut faire le deuil du grand Griezmann, mais qu'on peut quand même avoir un Griezmann utile au FC Barcelone, Cyril.
Des motifs d'espoir, il y en a peut-être un tout petit peu moins du côté du Paris Saint-Germain et surtout concernant Thomas Tuchel qui est déjà quasiment condamné, on ne va pas se mentir, il y a plusieurs cloches médiatiques qui ont annoncé son départ à la fin de la saison. On sait qu'avec Leonardo, c'est très, très compliqué. On a encore vu, mercredi, un Thomas Tuchel énervé face ouais. aux prestations des Parisiens et surtout face aux critiques de la presse, Martin.
Oui, alors je vais tout de suite vous lire la déclaration de Thomas Tuchel. En Italie, la Juve est première. En Angleterre, City ou Liverpool. En Espagne, le Real ou le Barça. La Ligue des Champions en août a laissé des traces. Nous, on est premier en Ligue 1. On ne voit que le négatif autour de l'équipe. Je ne comprends pas les discussions autour de Marquinhos, etc. Ce qui compte, c'est son comportement à Thomas Tuchel. C'est-à-dire ouais. que tous les trois jours, il expose face à la presse son énervement. Un énervement qui, pour moi, est synonyme de fébrilité, parce que ne nous racontons pas d'histoire, on est entre nous. Si aujourd'hui, il n'y avait pas eu la crise du Covid-19, si aujourd'hui, les finances du Paris Saint-Germain le permettaient, je suis certain que Thomas Tuchel ne serait plus l'entraîneur du Paris Saint-Germain, parce que c'est tout simplement plus tenable avec Leonardo. Il y a une guerre larvée, c'est ni bon pour Tuchel, ni bon pour l'équipe, ni bon, et ça c'est hyper important pour Doha, ni bon pour l'image ouais. que tu donnes de ton club. Et on sait que le Qatar fait très attention à ce qui s'écrit et à l'image que renvoie le club. Et je pense qu'ils ne sont pas heureux de voir un entraîneur voilà, qui est un peu hors de lui à chaque conférence de presse. Donc, une fois qu'on a dit ça, il apparaît assez clair aujourd'hui que Thomas Tuchel se sent attaqué et dans une victimisation permanente et dans une, j'allais dire, une Rudy Garciaisation du temps de l'OM de Thomas Tuchel. C'est un petit peu agaçant et surtout cette fébrilité-là, alors, je ne vais pas dire qu'on en voit les conséquences sur le terrain, mais malgré tout…
Elle est visible. Elle est visible.
Elle est visible parce qu'il ne diffuse pas de la sérénité. Il a envie de protéger son groupe, mais finalement, ces discours sont tellement poreux qu'ils ont assez peu d'incidence et ils ont assez peu d'efficacité. Donc, Thomas Tuchel, qui doit jouer le paravent ou qui doit être le gage de l'unité, voilà, bah, y a un peu tout ça qui s'effrite à chaque conférence de presse. Et on a l'impression de voir sous nos yeux, et c'est ce qui est un peu triste, et ben, voilà, au lieu que ce soit net, si tu veux, qu'on coupe la relation Tuchel-Paris Saint-Germain, et ben c'est un peu en train de se dilater semaine après semaine et on déchire ça de façon un peu grossière et voilà, je trouve que c'est un peu malvenu.
Ouais Martin, et en plus ce qui s'est passé juste avant le dernier jour du mercato, cette sortie médiatique qui a fortement déplu et aux propriétaires et à Leonardo qui a finalement attiré trois joueurs en l'espace de quelques heures, Moise Kean, Rafinha et Danilo Pereira, ça l'a pas renforcé Thomas Tuchel. On sent aussi qu'il a un petit peu perdu le contrôle sur son groupe, sur ses stars, et ça se ressent aussi dans les résultats. Cette saison, Paris a déjà perdu 3 matchs en 10 matchs seulement. La saison passée, c'était 5 défaites sur 49 matchs, si je ne dis pas de bêtises. Donc, on voit qu'on est déjà, on tire déjà sur la corde physiquement.
Oui, il y a une fébrilité qui ne devrait pas être. Alors, oui, il y a des blessés, ça c'est une certitude. Bien sûr. Mais j'ai envie de dire, à Paris, il y a toujours eu des blessés et malgré tout, il y a toujours eu une marge énorme sur la concurrence. Surtout quand on joue contre celui qui est supposé être le club le moins fort de la phase de poule. Il y a toujours une marge qui s'est réduite. Il y a un entraîneur qui se sent tout le temps attaqué. Ouais. Il y a des joueurs qui, du coup, se sentent un peu moins protégés. Et
c'est pas épanoui, tout simplement.
Oui, il y a une fébrilité ambiante du côté du Paris Saint-Germain, alors que voilà, la barre a été redressée assez nettement. Une défaite aussi face à Manchester, je pense, qui n'aide pas. Ouais. Qui n'aide pas. Mais voilà, il y a un espèce de climat ambiant qui est assez moyen. Mais vas-y, Ciel, pardon.
Non, du coup, on voulait savoir, Martin, on a essayé de comprendre le personnage Tuchel. Donc, on va accueillir un invité dans ce FC Stream Team qui va nous parler justement de la relation de Thomas Tuchel par le passé, notamment du côté de Dortmund. Martin, pour parler de Thomas Tuchel, on a décidé aussi de revenir un petit peu sur sa précédente expérience contrastée du côté de Dortmund avec un départ avec fracas. On accueille Quentin, propriétaire du compte Empereur Jaune sur Twitter. Allez le suivre parce qu'il suit de très très près l'actualité de Dortmund. Salut Quentin, une petite Salut, question pour commencer très rapidement. Est-ce que le Tuchel qu'on voit actuellement du côté du Paris Saint-Germain te fait penser au Tuchel qui a terminé avec le Borussia Dortmund ?
Alors, j'ai envie de te répondre à la fois un oui, à la fois un non. D'abord, évidemment, il y a des situations similaires. On le constate forcément avec les ruptures. rupture de relation avec les dirigeants.
Ouais.
Après, moi, je constate que c'est pas du tout le Thomas Tuchel que j'ai connu. Le Thomas Tuchel qui m'a fait rêver, moi, à Dortmund, pour le coup, et la personnalité, en tout cas, que j'ai adoré.
On se souvient qu'en 2016, il y avait une première rupture dans le mercato de Dortmund où on se souvient que Tuchel voulait garder Hummels, Gundogan et Mkhitaryan. Et Hans-Joachim Watzke lui avait dit « Ok, on les garde ». Finalement, ils avaient fini par partir. On se souvient aussi de l'affaire avec Aubameyang. Le club avait, on se souvient, mis à l'écart Aubameyang et Tuchel l'avait ostensiblement enlacé, montrant aussi qu'il y avait une certaine défiance vis-à-vis de l'autorité à Dortmund. On se souvient évidemment de l'attaque du bus de Dortmund où là, ça a complètement fait valser. C'est ce qui a causé son licenciement. Bref, on a l'impression quand même que Tuchel, il est tout le temps dans une sorte de combat avec ceux qui l'emploient. En tout cas, on a l'impression que ça se passe comme ça à Paris. On a l'impression que ça s'était passé déjà comme ça à Dortmund.
On parle déjà de ses expériences passées à Augsbourg, à Stuttgart notamment. On voit que c'est une personnalité complètement psychorigide, maniaque de l'entraînement. Et effectivement, on en a fait les frais, nous, à Dortmund. C'est vrai, comme tu disais, que Thomas Tuchel n'a que faire de la compassion vis-à-vis des joueurs, vis-à-vis de ce qui peut se passer. Lui, ce qu'il veut, c'est ses meilleurs joueurs sur le terrain. Lui, ce qu'il veut, c'est sa réussite, c'est sa performance sportive. Et il n'a pas d'état d'âme, quoi.
On a l'impression, en tout cas c'est ce qui se passe actuellement au PSG, c'est une fois que le conflit s'est installé, il le surjoue parfois. Par exemple avec le cas Marquinhos actuellement, qu'il a décidé de mettre milieu de terrain parce qu'il le considère meilleur au milieu de terrain. Il est têtu et presque, c'est à la fois une de ses qualités. Et dans ces moments-là, ça apparaît comme un énorme défaut. Est-ce que ça aussi, ça a joué à l'époque avec Dortmund? Est-ce qu'il a volontairement un petit peu… Ce n'est pas de la provocation, mais disons que voilà, il assume le fait d'être l'unique patron du sportif.
Ouais, déjà, je pense qu'il a une sorte d'ego surdimensionné. Il considère que lui, il a le savoir tactique, que lui, il va avoir les bonnes solutions. Et que tout ce qui peut lui être proposé en alternative n'est pas forcément la bonne solution. On le voit à ses choix. Hein. Ça, c'est une grande similitude que j'ai repérée entre le Tuchel de Dortmund et le Tuchel du PSG, pour le coup. C'est que tactiquement parlant, il nous fait des trucs bizarres. Clairement, ouais. Il nous fait des trucs bizarres. Il y a des espèces de lubies. Moi, je pense notamment à Kerrer au PSG. Il y a eu une espèce de lubie de Kerrer latéral droit à un moment. Ouais. Il y a des espèces de trucs comme ça qu'on comprend difficilement, mais que lui considère comme être la bonne solution. Et on peut lui dire tout ce qu'on veut par rapport à ça. C'est Thomas Tuchel qui aura raison. Et à partir du moment où il voit que dans les médias, que ça ne suit pas forcément, que l'opinion n'est pas de son avis, effectivement, il y a une tendance à surjouer ce petit détail, soit en l'accentuant, soit en le maintenant comme ça, pour montrer que non, lui, il a décidé que ça serait comme ça, que c'est sa décision, que c'est forcément la bonne. Moi, il m'a fait aussi rêver par son comportement sur le bord du terrain. Moi, c'était un Thomas Tuchel que je voyais complètement à la clope, j'ai envie de dire, sur le banc, ça avait avec une vraie dimension meneur d'homme. Il haranguait ses joueurs, il instaurait une espèce de climat de offensive, de volonté, pour essayer de
cimenter son groupe,
exactement là. Et ça, je le retrouve pas du tout au PSG, quoi. Moi, je vois un Thomas Tuchel qui est sur le banc, complètement apathique, parfois même indifférent à la prestation de son équipe. Moi, c'est quelque chose que j'aurais jamais vu à Dortmund. Alors, il avait une espèce de prestance, ouais, sur le banc, c'est vrai. On le voyait qu'il s'agitait beaucoup, il était très excité dès qu'il sur les buts, sur les décisions arbitrales qui allaient pas dans son sens. Tout ça, ça participait à mettre une espèce de climat à la clope, j'ai envie de dire, de galvanisation de joueurs. Et ça, au PSG, je ne vois pas du tout ça. Je vois plutôt au contraire un Thomas Tuchel qui est complètement passif sur son banc. J'ai regardé un peu la Ligue des Champions, ça m'a fait de la peine de le voir comme ça.
C'est parce qu'il s'est cassé son métatarse, c'est pour ça.
Il était sur sa glacière, ouais, c'est ça.
Non, mais c'est vrai que ce que tu dis est intéressant. Il y a eu un moment où c'était un peu la lune de miel entre Tuchel et ses joueurs. On se souvient de nombreuses accolades avec Neymar et Mbappé. Et ouais. Ça a correspondu à la période où le Paris Saint-Germain roulait bien. Là, on sent qu'il y a quelque chose qui s'est un petit peu cassé, peut-être depuis le Final 8, peu importe. Moi, j'ai une dernière question pour toi, Quentin. On a parlé de son caractère un peu psychorigide, son incapacité presque à mettre de l'eau dans son vin pour avancer tranquillement. Est-ce que finalement, il ne se heurte pas ici à un plafond de verre? Est-ce que pour la suite de sa carrière personnelle à lui, il n'y a pas le risque qu'aucun grand club ne vienne le chercher avec ce caractère un petit peu de cochon?
Alors, pour te répondre, ouais, c'est vrai que je suis complètement d'accord avec ce que tu dis. Moi, j'avais écrit un espèce d'article il y a quelques temps sur le sujet et j'avais conclu en disant qu'effectivement, c'était peut-être là la limite de Thomas Tuchel, c'était sa personnalité sans aucune compassion, ouais. sans difficulté de relation avec des instances. À côté de ça, c'est quand même un mec qui est reconnu en Allemagne, partout où il est passé, pour ses qualités tactiques. Son intelligence tactique, c'est un génie pour les Allemands, un génie tactique qu'on alors pour le coup que moi je ne retrouve pas du tout dans son travail du PSG. Ouais. Je comprends pas comment il joue. Moi, je considère même à l'inverse qu'il est complètement submergé par son vestiaire.
Merci beaucoup Quentin de nous avoir donné ton témoignage en tant que spécialiste du Borussia Dortmund.
Bah, je vous en prie, au plaisir.
Merci beaucoup et à bientôt.
À bientôt. Bon courage à vous.
Salut. Merci. Salut. Allez Cyril, on va terminer cette émission avec le genre de classement qu'on aime bien faire dans le FC Stream Team. Ouais. Vous savez que France Football a décidé de ne pas décerner de Ballon d'Or cette année en raison de la saison tronquée due à la pandémie de Covid-19. Bah, nous, on s'est dit qu'on allait faire notre top 10 du Ballon d'Or 2020 parce que généralement, c'est à cette saison, disons première semaine de novembre, que se clôturent les votes pour le Ballon d'Or. C'est ça. Donc Cyril, on va livrer à nos chers auditeurs, à nos chers internautes, notre top 10. Et on va démarrer, Cyril, je vais démarrer avec le numéro 10, à savoir, pour nous, c'est Virgil van Dijk. Alors, Virgil van Dijk, on sait, c'est le patron de Liverpool. Pourquoi Virgil van Dijk? Parce que Liverpool a accroché un titre absolument somptueux à son palmarès, un titre de champion d'Angleterre qu'ils attendaient depuis 30 ans avec 99 points, soit une saison assez incroyable dans le championnat sans doute le plus disputé d'Europe. Ça méritait une place dans le top 10 pour l'un des meilleurs défenseurs du monde, le patron de ce collectif, celui qui incarne la solidité des ormes de Jürgen Klopp. Pourquoi pas plus haut, Van Dijk? Parce qu'il lui manque peut-être un joli parcours en Ligue des Champions. On sait que cette élimination en 8e de finale face à l'Atlético lui coûte peut-être une place un peu plus haute dans ce palmarès. Cyril, je te laisse pour le numéro 9.
Le numéro 9, c'est un autre patron. Là aussi, difficile de lui contester ce grade-là. C'est évidemment Sergio Ramos, le défenseur du Real Madrid. Pourquoi Sergio Ramos? Parce qu'il a été encore l'âme de la Casablanca, l'âme du club qui a réussi enfin à remporter de nouveau un championnat d'Espagne. Ramos, ça a été quand même le deuxième meilleur buteur du Real Madrid la saison passée. Je ne sais pas si vous vous rendez compte pour un défenseur central. Alors évidemment, il y a des pénaltys, mais les pénaltys, encore faut-il les mettre. Donc 11 pions en championnat d'Espagne, 2 buts aussi en Ligue des Champions. Une saison encore complète et au-delà de ça, il y a quand même encore quelque chose, un charisme assez fou qui se dégage de ce personnage-là, qui marquera quoi qu'il arrive l'histoire du Real Madrid et l'histoire du football. Et 9e, il aurait pu aller plus haut, mais il lui manque là aussi un gros parcours en Ligue des Champions. On a vu d'ailleurs que quand il n'était pas là, notamment 8e de finale retour face à Manchester City, certains, notamment Raphaël Varane, sont beaucoup plus en difficulté. Donc ça prouve à quel point sans lui, il y a un Real et ce n'est pas exactement la même limonade.
8e, c'est notre troisième défenseur central, comme quoi. Nous, généralement, le Ballon d'Or récompense plutôt les offensifs. Nous, on a décidé cette année de mettre en valeur les défenseurs centraux. Et on a mis, c'est une grosse cote, Marquinhos, le défenseur brésilien du Paris Saint-Germain, qui a fourni une année 2020 absolument exceptionnelle. On ne va pas revenir sur sa prestation de mercredi en Turquie parce que non, c'est loin.
Ça ne compte pas.
Ah ouais, non, ça ne compte pas. Puis c'est loin aussi de démontrer ce qu'il a prouvé sur le terrain au cours de cette année 2020. Il s'est complètement affirmé comme le patron du PSG en défense. C'est le meilleur buteur du PSG lors du Final 8 quand même. Il marque 2 buts capitaux. Il permet à Paris de revenir face à l'Atalanta. Sinon, c'est terminé l'aventure. Il n'y a pas de finale, etc. Donc, c'est lui qui égalise. Il ouvre le score face à Leipzig. Il a aussi une énorme occasion en finale face au Bayern Munich. C'est dire à quel point il apporte des deux côtés du terrain. Alors, ce n'est pas encore Sergio Ramos au niveau des statistiques, mais il a marqué des buts hyper, hyper importants. Il a pris une dimension absolument incroyable. Et aujourd'hui, on peut le dire, mais sans discussion possible, qui fait partie du top 5 des défenseurs dans le monde.
On a parlé des défenseurs centraux, on va peut-être récompenser désormais un offensif. On retourne du côté du Real Madrid avec la 7e place pour Karim Benzema. Pourquoi Karim Benzema ? Parce qu'on parle du meilleur joueur, du champion d'Espagne, tout simplement. Meilleur joueur de Liga aussi, n'ayons pas peur des mots, au-dessus de Messi la saison passée. Champion d'Espagne, Karim Benzema qui a fait une saison incroyable, qui a porté le Real Madrid sur ses épaules. On en attendait beaucoup, notamment avec l'arrivée d'Eden Hazard. Eden Hazard n'a quasiment pas joué. Il a assumé seul la charge offensive quasiment du Real Madrid. Et ça, c'est peut-être sa plus belle saison à titre individuel et ça a permis de ramener un titre collectif au Real Madrid. Donc, c'était l'homme fort du meilleur club d'Espagne la saison passée. Difficile de ne pas le mettre dans ce classement. Pareil, un petit peu compliqué de le mettre plus haut en raison de l'échec du Real Madrid en 8e de finale de Ligue des Champions. Mais Benzema, énorme, énorme saison 2019-2020 et on espère pour lui aussi qu'il saura continuer sur cette lancée.
Allez, on va continuer avec un habitué des lieux, celui qui a sa carte dans ce top 10. D'habitude, il a même sa carte dans le top 3 et même dans le top 2. Mais cette voire, année, top voire top 1. Mais cette année, il s'est fait éliminer en 8e de finale de la Ligue des Champions. Donc, c'était dur de le mettre plus haut. C'est évidemment Cristiano Ronaldo. Alors, il y a cette élimination en 8e de finale, effectivement, face à Lyon.
Mais il marque quand même deux buts.
Ouais, voilà, où il marque quand même deux buts absolument incroyables. Mais tout le reste, c'est un sans faute. C'est une année à 28 buts, donc… Personne n'a fait mieux que lui, hormis Robert Lewandowski. Il ne peut pas aller plus haut parce qu'il lui manque une perf marquante. Voilà, on sait, c'est évident. Mais on voit que sans lui, ce n'est pas la même Juve. Hein. On l'a vu face au Barça mercredi. Voilà, on ne va pas passer par quatre chemins. C'est toujours un des meilleurs attaquants du monde. Voilà. C'est une machine. 28 buts. Et là, pour le coup, c'est statistique. Et il a un titre, contrairement à Messi cette année. Il a un titre. Il est champion d'Italie, un titre des stats encore énorme, une dépendance totale de la Juventus Turin envers lui. Il ne pouvait pas ne pas figurer dans ce top 10 et on l'a mis en 6e position, Cristiano Ronaldo.
Le 5e, Martin, moi, il me tenait à cœur. On s'est longtemps écharpé autour de son cas. J'estimais qu'il aurait pu aller plus haut. C'est évidemment Sadio Mané, le détonateur offensif, tout simplement, de cette formidable équipe de Liverpool la saison passée. Sadio Mané, il a toujours un déficit de notoriété. Il ne marque pas énormément de buts. Je crois que sur la saison, sur l'année civile 2020, puisque c'est de ça dont on parle, il a 12 buts. Donc, on n'est pas sur des stats pharaoniques. En revanche, dès qu'il se passe quelque chose dans l'attaque de Liverpool, ça vient très, très souvent de lui. C'est l'homme qui débloque des situations. Il a aussi pris une autre envergure en marquant des buts importants. Il n'est pas assez évoqué ces dernières années dans les discussions des meilleurs joueurs, etc. Mais je pense qu'il fait partie très, très nettement du top 10 européen et que le titre de Liverpool lui revient quand même. Pour moi, c'était le joueur le plus important de Liverpool la saison passée avec ce titre en Première Ligue derrière lequel ils ont longtemps, longtemps, longtemps couru.
Allez, on va passer aux choses très, très sérieuses là avec le numéro 4 et Joshua Kimmich. Donc, on a décidé de mettre en quatrième position. Si un joueur qui devait incarner la menace un peu protéiforme de ce nouveau Bayern, sa force actuelle, ses progrès, ce nouveau Bayern-là, je pense que ce serait lui. Ce serait Joshua Kimmich. Qui a à la fois le présent et l'avenir du Bayern Munich, excellent défenseur, milieu absolument de génie, passeur décisif en finale pour Kingsley Coman. Kimmich, il sait tout faire, c'est l'héritier de Philippe Lahm, peut-être bien, c'est la future âme de cette équipe, peut-être déjà même l'âme de cette équipe du Bayern Munich. Je ne reviens pas sur son palmarès, puisque le Bayern a absolument tout gagné cette année. Depuis le début de saison, il en est déjà à 3 buts et 4 passes décisives, donc c'est absolument dément. L'an dernier, il a rayonné.
C'est une des seules différences avec tous les autres du classement, c'est que lui, il a terminé très fort la saison passée, il a redémarré la nouvelle très, très fort
très,
aussi.
Très fort. Exactement, tout à fait. Alors, bien sûr, au Bayern, il y a Neuer dans les buts, il y a Lewandowski à la finition. Pour le reste, entre les deux, voilà, c'est le magnifique patron de ce Bayern-là. Et la domination du Bayern, c'est aussi la sienne. C'est la saison où il a complètement explosé. Donc, il se devait d'être dans le top 5 du Ballon d'Or.
On entre dans les choses sérieuses, Martin.
De notre Ballon d'Or.
De notre Ballon d'Or, bien sûr. Les choses sérieuses commencent, c'est le podium. Et à la troisième place, on retrouve Neymar. Évidemment, l'attaquant du Paris Saint-Germain. Pourquoi Neymar ? Parce que son final eight aura été presque parfait, on a envie de dire. Il s'est mangé Enfin, il a affronté en tout cas Manuel Neuer en finale qui l'a empêché de marquer. Il n'a pas marqué évidemment face à l'Atalanta, mais il a fait tout le reste. Il a fait vraiment une dernière ligne droite magnifique avec le Paris Saint-Germain. Sans lui, Paris n'aurait pas fait grand-chose. C'était lui qui était à la construction, lui souvent qui était à la finition. Donc, c'était le facteur X de ce Paris Saint-Germain-là, finaliste, faut-il le rappeler, de la Ligue des Champions. C'était évidemment sa saison peut-être la plus aboutie aussi du côté du Paris Saint-Germain, en tout cas collectivement. C'est un petit peu plus compliqué depuis le début de saison, mais il en a encore sous la semelle, évidemment, et il sera de toute façon dans la discussion dans les années à venir. Mais en tout cas, on voulait récompenser sa meilleure saison peut-être du côté du Paris Saint-Germain.
Oui, moi, ce que j'ai aimé dans la saison de Neymar, c'est que c'est lui qui a amené le collectif. C'est lui qui a assumé son rôle. Il a assumé son rôle, il a fusionné un peu toutes les énergies dans le vestiaire. Il a dit, allez, les gars, on y va. Et ça a été lui, le vrai patron, pas que sur le terrain. Et c'est pour ça que c'était important aussi de le mettre en troisième position, parce que je pense que c'est l'élément central de la réussite du Paris Saint-Germain, au-delà du fait qu'il n'a pas marqué dans le final. Donc, ça peut paraître contradictoire, mais pour moi, ça n'est pas. Alors, en deuxième position, c'est celui qui a fait cauchemarder Neymar, Mbappé et tous les autres en finale. C'est Manuel Neuer, qui est redevenu, cette année, alors qu'on l'avait complètement enterré les années dernières, qu'on se disait, bon, là, voilà,
c'est la fin, il a tout gagné.
C'est le champ du tigre, voilà. Incroyable force de caractère, il est au fond du trou, on le pensait dépassé, incapable de revenir. Cette année, il a mis tout le monde d'accord pour redevenir le meilleur gardien du monde. Regardez son final, elle est absolument éblouissant. Regardez sa finale, qui est absolument incroyable. Pour moi, c'est le meilleur Munichois en finale. 3 parades décisives, voilà. Il touche 50 ballons en finale. 50 ballons, c'est-à-dire qu'il n'y a aucun offensif du Bayern qui en touche autant que lui. Il est redevenu le robot qu'il était, Manuel Neuer. Et je finirai avec les déclarations de Tuchel à la fin de la finale, qui a parlé de concurrence déloyale quand il y avait Manuel Neuer dans les buts en face de lui. Voilà, ça dit tout de ce qu'a apporté Manuel Neuer à ce Bayern. À ce Bayern absolument omnipotent, omniprésent, un glouton comme on en a rarement vu. On se devait de mettre Neuer sur le podium de notre Ballon d'Or.
Alors Martin, est-ce qu'il y a vraiment un suspense pour l'identité numéro 1? Si vous nous avez écouté jusqu'au bout, vous avez vu que Lionel Messi et Kylian Mbappé ne font pas partie de ce top 10. En revanche, on était obligé évidemment de récompenser Robert Lewandowski, absolument phénoménal. C'est simple, en 2020, personne n'a plus marqué de but que lui. Il me semble que c'est 35 buts sur toute l'année civile. Il a redémarré cette saison avec la même forme, hein, 5 matchs, 10 buts. Et au-delà de ça, ça a été le sniper idéal pour cette armée du Bayern Munich. Il a encore progressé dans son jeu, encore plus clinique, encore plus létal. Il incarne, à mes yeux, ce Bayern sans pitié. C'est-à-dire que il peut y avoir, et on l'a vu face au FC Barcelone en quart de finale, si je ne dis pas de bêtises, il peut y avoir 2, 3, 4-0, il continuera, il sera toujours là pour marquer. Il symbolise ce Bayern sans état d'âme. Et évidemment, individuellement, on ne trouvera pas mieux en Europe en termes d'avant-centre. Donc Robert Lewandowski, Ballon d'Or 2020, c'est une évidence. On ne va pas dire grand-chose de plus, Martin, je pense que tu es d'accord avec moi. Ouais. Il n'y a pas grand-chose qui aurait pu l'empêcher de soulever ce trophée-là normalement.
C'est pas de bol hein, pour les Lewandowski. Ouais. L'année où il n'y a pas de Ballon d'Or, il gagne tout et c'est le meilleur buteur sur l'année 2020. Alors, vous avez remarqué que pas Lionel Messi, pas de Kylian Mbappé, on va l'expliquer assez facilement. Le FC Barcelone fait la plus mauvaise saison avec Lionel Messi depuis que Lionel Messi est là. Quasiment. Ils n'ont absolument rien gagné. Messi a fait une saison très très honorable en termes de statistiques, évidemment. Mais c'était trop juste, pas un seul titre pour figurer dans ce top 10. Pour moi, Kylian Mbappé est un peu plus proche de ce top 10-là, mais malgré tout, ses stats ne sont pas folles. Et puis, dans les moments clés, il a manqué parfois au Paris Saint-Germain que Mbappé porte les stockades. Dans les grands rendez-vous, il était un petit peu effacé, et notamment par rapport à Neymar ou même par rapport à Marquinhos. Il a parfois manqué un grand Mbappé. On sait qu'il a joué le Final 8 aussi un petit peu sur une jambe, donc voilà, ça explique aussi ça. Mais il n'était pas très loin du top 10, Kylian Mbappé. Cyril, je crois qu'on a fait le tour aujourd'hui pour ce FC Stream Team. Merci. Ouais,
on va faire un petit rappel quand même.
Oui, vas-y, fais un petit rappel.
On va rappeler à nos chers auditeurs que le FC Stream Team est disponible chaque semaine, tous les vendredis, sur toutes les bonnes plateformes d'écoute, Spotify, Acast, Apple Podcast. N'oubliez pas d'aller nous noter, n'oubliez pas de nous mettre des commentaires aussi. Martin surveille ça comme le lait sur le feu. Il s'est mis une petite alerte sur son portable et dès qu'il y en a un qui tombe, il nous envoie des messages. Donc, continuez, mais faites des messages plutôt en matinée parce que sinon il nous harcèle la nuit. Donc voilà, n'oubliez pas d'aller noter l'UFC Stream Team et d'aller noter au passage et d'aller écouter tous les autres podcasts d'Eurosport parce que vous trouverez forcément chaussures à votre pied.
Merci Cyril d'avoir remplacé si brillamment Maxime Dupuis. C'est pas bien compliqué, tu me diras, mais il fallait quand même le faire. On se donne rendez-vous la semaine prochaine pour un nouveau numéro du FC Stream Team. Merci à Quentin Guichard pour les visuels. Merci à François Xavier Allais pour la réalisation. À la semaine prochaine. Bye bye.
Tired of ads interfering with your favorite sports podcasts? Good news. Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Stay ahead of the game by downloading the Amazon Music app for free or go to amazon.com/sportsadfree. That's amazon.com/sportsadfree to catch up on the latest episodes without the ads.